France Culture.
Bonjour le Book Club. J'ai lu l'abécédaire sensible des bibliothèques et j'ai vraiment aimé le côté recueil du livre.
Est-ce que vous auriez des livres sur le compagnonnage ? J'écris un roman historique.
Je trouve que la forme, elle est parfaite pour montrer la multitude des visages des bibliothèques et de leur personnel.
Je cherche des informations sur l'hypnose. Je fais une reconversion professionnelle. Vous y croyez à l'hypnose ?
Étant bibliothécaire moi-même, j'ai apprécié la justesse avec laquelle le livre parle des moments de joie, de doute, de stress, l'accueil inconditionnel du public, l'ensemble de nos missions.
Avez-vous des documents sur la mort ? Je prépare une formation d'assistante funéraire.
Que pensez-vous de la disparition du livre ?
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une salle de lecture cache mille gestes, mille regards, mille questions, mille relations qui se déploient discrètement sous l'apparence des corps assis, aux tables de lecture, ou debout, aux bornes d'accueil. On y ressent et on reconnaît la nature de nombreux silences qui n'ont rien de vide. Oui, on parle des bibliothécaires dans votre book club aujourd'hui et des bibliothèques, en profitant de l'apparition de deux livres, dont celui que je viens de citer. Un abécédaire, fruit d'un travail de réflexion de longue durée de plusieurs collectifs de bibliothécaires sur leurs pratiques et leur évolution. Et d'autre part, un recueil de témoignages d'auteurs et d'autrices contemporains évoquant la place qu'ont pu avoir les bibliothèques dans leur parcours. Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouvons Nicole Vulser qui évoque pour nous un aspect économique du monde des livres aujourd'hui. Elle nous raconte comment les maisons d'édition s'attachent à promouvoir leur parution de la rentrée littéraire de plus en plus tôt. Une grande campagne de commercialisation qui précède de plusieurs mois la sortie effective des livres. Et en fin d'émission, on joue au grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure, comme dans la plus accueillante des bibliothèques. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Romain Boissier.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct depuis la bibliothèque de Pujol, où vous êtes bibliothécaire. D'une bibliothèque à l'autre, c'est le titre du livre qui rassemble ces témoignages d'autrices et d'auteurs que vous avez coordonnés. Il a paru ce livre aux éditions de la Manufacture de Livres. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue dans le Book Club.
Merci à vous.
Et bonjour Agathe Béchelen.
Bonjour.
Vous êtes bibliothécaire à la Bibliothèque publique d'information, autrement plus connue sous l'acronyme BPI à Paris. C'est une bibliothèque qui va fermer, peut-être on pourra dire, tous les enjeux de cette fermeture avec le Centre Pompidou pendant plusieurs années de travaux. Vous coordonnez dans ses murs des ateliers numériques destinés à accompagner de jeunes migrants dans leurs démarches administratives. Et puis vous signez plusieurs textes dans cet abécédaire sensible des bibliothèques avec... un sous-titre, pardon, Mots d'ordre et de désordre, paru aux éditions Hétérotopia. Bienvenue dans le Book Club. Il y a plein d'infos, du coup, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Et bonjour, Joël Lemarec.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous avez co-dirigé aussi cet abécédaire avec Muriel Amar. Le livre est préfacé par Georges Didier Huberman et préludé, le mot est joli, par Philippe Artière. Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous vous intéressez souvent aux zones, je cite, de contact entre espaces collectifs et espaces intimes engagés dans la production active de savoir. On verra comment est-ce que c'est pertinent d'en parler justement quand on parle du métier de bibliothécaire. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de cet abécédaire. Alors moi, j'ai envie qu'on commence par parler un peu de méthodologie. J'ai été très intéressée par la manière dont s'est écrit ce livre-là, Abécédaire sensible des bibliothécaires, comme il apparaît aussi qu'il naît d'une réflexion de longue durée, d'ateliers collectifs, comme il se présente aussi comme un objet presque réflexif de ce que c'est que réfléchir à son métier et pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de personnes qui ont le temps, qui ont pris le temps ou qui n'ont pas le temps mais qui ont pris le temps de réfléchir à leur métier et peut-être ce que ça dit du moment dans lequel se trouve ce métier de bibliothécaire aujourd'hui. Agathe Béchelen.
En fait, au départ, pour moi, c'était comme souvent pour les gens qui ont un quotidien de travail, c'est toujours compliqué, en fait, de prendre du recul, une certaine distance pour décrire, pour réfléchir à nos pratiques. Et donc, la démarche de Muriel et de Joël, en fait, ce que je trouvais joli aussi, c'est qu'elle voulait travailler sur les savoirs de l'expérience. Et en fait, déjà, je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais il y avait quelque chose de effectivement sensible qui teintait à mon oreille. Et après, effectivement, ça intervenait à un moment de l'histoire des bibliothèques et notamment de la BPI du Centre Pompidou, où une page allait se tourner. Et donc, à la fois, ça redoublait la douleur. Et donc, je voulais surtout pas regarder cette douleur en face. Mais grâce à Muriel et Joël, on a pu accompagner en fait ce travail de la douleur. Et donc, de réfléchir à mon métier. C'était aussi l'occasion aussi de donner la parole à des bibliothécaires qu'on entend souvent plutôt... disons qu'on entend souvent derrière leur bureau, qui sont dans la bibliothèque, et en plutôt en chuchotant. Donc là, il fallait... Disons, occuper une place et une parole qui n'était pas habituelle.
Vous êtes bibliothécaire depuis combien de temps, Agathe Bechelen ?
Alors, moi, je travaille en bibliothèque depuis 1986.
Joyeux anniversaire,
presque. Ça fait un bail. Et après, comme beaucoup de bibliothécaires, on a tout un parcours. Mm-hmm. Et moi, j'ai commencé à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, quand elle était vraiment, maintenant elle est devenue l'INHA, mais qui était vraiment une bibliothèque du 19e siècle, quoi. Mais mon rêve, ça avait toujours été de travailler au Centre Pompidou.
Est-ce que vous pouvez dire en deux mots pourquoi est-ce que c'était votre rêve de travailler à la BPI ? Parce que, évidemment, cette réflexion autour du métier de bibliothécaire, et on va dire que c'est une réflexion qui est générique, c'est-à-dire qu'on sent que ça produit du savoir autour des expériences de bibliothécaires et qui pourrait s'appliquer à toutes, on espère, bibliothèques de France et de Navarre. Mais bien sûr, la BPI, elle existe quand même un peu plus fort dans ces pages-là, Agathe Bechelen. Pourquoi est-ce que vous, à titre personnel, vous rêviez de travailler à cette bibliothèque publique d'information ?
En fait, moi, j'avais découvert la BPI lors pratiquement de son ouverture, j'avais 13 ans, j'étais allée avec ma mère et j'avais adoré le dehors de la bibliothèque, en fait le parvis où il se passait énormément de choses. Et donc c'était un peu la corvée d'aller dans la bibliothèque, moi j'aurais préféré rester dehors. Mais quand je suis rentrée dans la bibliothèque, je me suis rendue compte qu'il y avait du dehors dans le dedans. C'est-à-dire que la liberté que je trouvais sur ce parvis en tant qu'ado, je la trouvais dans la bibliothèque. Et donc, petit à petit, au lycée, je me suis dit, mais tous les profs, plus ou moins, voulaient que je sois prof. Mais moi, je savais pas du tout ce que j'allais devenir. Mais je sentais que la BPI du Centre Pompidou, c'était un lieu, et je savais pas trop ce que c'était, bibliothécaire, en fait. Mais c'était un lieu où je pourrais travailler dans la liberté. Et ça s'est confirmé.
Oui, et d'ailleurs la question du dedans et du dehors, la porosité entre la chose publique, y compris même la chose de l'espace public, et comment est-ce que c'est interpénétrant avec l'espace de la bibliothèque, est une question politique qui agite nombre de ces pages et de ces contributions, Joëlle Lemarec. Comment est-ce qu'on peut parler de ce travail réflexif produit par ces bibliothécaires, et pourquoi est-ce que c'est singulier ou sensible, pour reprendre l'adjectif que vous avez choisi pour cet abécédaire ?
Oui, alors... l'idée, c'est que, en fait, on doit sortir absolument d'une inégalité ou d'une asymétrie. Enfin, selon moi, quand on cherche à parler d'égalité ou de symétrie des savoirs, enfin, quand on est dans un moment où on s'interroge beaucoup sur les rapports de domination, enfin, sur et avec quand même, on reconduit souvent l'idée que produire des savoirs, c'est l'affaire de spécialistes. Enfin, il y a plein de gens dont la vie dépend énormément, enfin, à toutes les phases de leur vie, d'une capacité vraiment à incorporer, produire, faire circuler des savoirs. Et pourtant, il y a toujours cette idée que c'est l'affaire de professionnels. Mmh. Et là... J'ai longuement, en fait, je me suis formée à la recherche à la bibliothèque, en tant qu'étudiante, mais après au service des études et de la recherche de la BPI à l'époque, avec des sociologues. Ensuite, j'ai constamment, on va dire, parcouru les espaces institutionnels qui prenaient au sérieux les savoirs. Et cette enquête, alors Muriel, dommage qu'elle ne soit pas là, mais c'est un peu ensemble. Je sortais de nombreuses enquêtes sur la manière dont des usagers, justement, ont des projets, enfin des intérêts de connaissance, enfin très sérieux, qui transforment leur vie à la bibliothèque. Mmh. Et là, c'était les conditions dans lesquelles c'est possible d'avoir une telle foi dans les savoirs, et à juste titre. Qu'est-ce qui fait que c'est entretenu ? Et c'est le métier des bibliothécaires qui est en arrière-plan, des personnes cultivées, très diplômées, qui sont si discrètes. Comment ça se fait justement qu'il y a ces conditions d'égalité ? Comment c'est possible ? Qui font que les lecteurs sont à l'aise, se sentent un peu à égalité, justement, même s'il y a un immense respect pour les bibliothécaires ou
pour adresser leurs questions, pour voilà, dire leur intérêt.
Et pour être pris au sérieux dans capacité aussi à considérer les savoirs comme transformateurs de leur vie et aussi dans leurs soins. Eux-mêmes exercent un soin, leur soin des toutes les démarches de connaissances qui se développent dans la bibliothèque. Et pour ça, c'est pas possible de faire une enquête où, à nouveau, quelqu'un poserait des questions, extrairait du contenu, ferait justement une enquête, on va dire, avec des sujets enquêtés, enfin, et reconduirait une position d'auteur sur le dos de tous les autres. Donc en fait, ça c'est, je pense, aussi avec Muriel, hein, enfin, qui a vraiment mis en place le dispositif où on a voulu
se mettre sur un pied d'égalité.
Voilà. Voilà. Et ça, ça a été assez difficile en fait de vraiment sortir des places, hein, enfin, parce que en fait, c'est tellement construit. La place des chercheurs, la place des bibliothécaires, mais en fait, il y a quand même cette position, enfin, qu'on a un peu toutes, je pense, où on a traversé ces institutions de part en part, et donc, de toute façon, au-delà des places, on a incorporé ce sentiment d'égalité, et on a pu mener ces ateliers ensemble. Enfin, on s'est arrêté à certains moments, on les a repris, on a fait une journée d'études, on a fait des entretiens individuels, on a suivi des séminaires, on se retrouvait dans plein d'endroits. Et c'est cette porosité, justement, hein, des places, qui, je pense, a rendu possible l'abécédaire. Voilà.
Alors, ce qui est important peut-être de dire, Joëlle Lemarec, c'est au fil des pages, ce qui vibre un petit peu, peut-être avec le moment actuel dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui parlent de leur travail, qui prennent un temps pour réfléchir à leur travail, à leur pratique, à leurs gestes, à comment il et elle, même si on conjugue beaucoup au féminin et à raison, se déplacent, écoutent, répondent, bougent des livres, bon, elles réfléchissent à ces métiers à un moment donné où on pourrait dire qu'il est comme un peu menacé, ce métier-là. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur dans quel contexte aussi ces personnes-là ont pris un temps pour réfléchir au travail qu'elles faisaient, à la valeur de ce travail, à l'importance que pourrait avoir ce travail dans l'élaboration d'un lien social. Voilà, c'est pas à n'importe quel moment que paraît ce livre-là.
Voilà, c'est un moment en effet où il y a des menaces. D'ailleurs, les menaces, elles sont... elles ont des effets dramatiques, enfin, aux États-Unis, elles en ont en Angleterre, enfin. Et en France, ça fait longtemps aussi que la bibliothèque est sous pression, quand même, avec une forme de disqualification rampante, enfin, par les pouvoirs publics ou par plein d'opérateurs qui ne cessent de parler d'innovation, enfin, voilà, de transformation. Il y a eu souvent une attitude un peu comme ça, presque ironique à l'égard de la bibliothèque, qui se maintient dans sa forme, obstinément, alors que tout bougerait autour, on serait dans l'enchantement de l'innovation. Et
avec une disqualification un peu passéiste, qui est sous-tendu dans ce discours.
Avec l'idée, mais enfin c'est insupportable, et en plus, quand on ne la fréquente pas, il y a cette idée que... cette résistance apparente, hein, apparente vraiment au changement, eh bien, elle se ferait au détriment des lecteurs, enfin, qui seraient maintenus à distance, puisque, enfin, on voudrait pas aller vers eux. Enfin, bon, une fois qu'on s'intéresse à la bibliothèque, on voit que tout ça vole en éclats. Mais il y a vraiment ce côté un peu dépréciatif, et surtout, la bibliothèque, c'est un réservoir de valeurs. Possible, hein. Enfin, toutes les institutions de service public, et en particulier du savoir et de la culture, en fait, elles sont très très convoitées pour des projets de rénovation, de transformation, etc., etc. Donc, la bibliothèque fait partie de ça. Les musées ont été très très convoités et très transformés par un marché comme ça d'extraction de la valeur des savoirs, de la culture, et la bibliothèque s'est maintenue très résistante. Et j'utilise un peu une métaphore écologique, peut-être, c'est un peu comme ces forêts qu'on a voilà laissées un peu tranquilles, et aujourd'hui, on se félicite de ne pas les avoir aménagées, gérées, enfin détruites, parce que c'est des milieux de vie extrêmement précieux. Et la bibliothèque, voilà, la bibliothèque est un milieu qui a été assez résistant, assez confiant, enfin dans son épaisseur, sa richesse. Et pour moi, enfin, mais aussi pour nombreux d'entre nous, enfin, elle est un peu aux avant-postes aussi de ce qui va incarner des possibilités de reprise, hein, dans un monde où on ne sait plus trop comment on peut sortir aussi d'un désenchantement, du stress. Donc, il y a une menace
d'un champ de contre-vérité, d'investissement du savoir scientifique. Oui. On y viendra évidemment. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de sortir du désenchantement, même si la question de l'imaginaire est très présente, mais aussi d'incarner un lieu, un biotope, un milieu où les choses elles sont un peu plus solides dans c'est un ça. Monde où oui. tout va et s'irait. Je pense en vous écoutant, Joëlle Lemarec, à un tableau dans cet abécédaire sensible où on sent que la question de l'évolution est prise au sérieux, contrairement à ce qui pourrait être éventuellement véhiculé dans les discours, à savoir ce à quoi nous tenons, qu'est-ce qui pourrait être en effet externalisé, qu'est-ce qui ne le peut pas. Et voilà, c'est un tableau qui me semble pertinent de poser à tous les métiers, notamment qui structurent la fonction publique, pour se poser les questions sérieusement. Je continue le tour de table, Romain Boissier, sur la motivation et peut-être le moment aussi où naissent ces livres-là, ces livres collectifs de réflexion sur les lieux bibliothèques, sur le milieu bibliothécaire. Le livre s'appelle « D'une bibliothèque à l'autre » et vous en avez coordonné la publication, Romain Boissier. Pourquoi vous avez eu envie de demander à des auteuristes contemporains de témoigner de la place qu'a eue la bibliothèque dans leur parcours ?
Déjà, ce qui est très beau et ce qui me semble significatif, symbolique, c'est que les deux livres dont on parle aujourd'hui sont des livres collectifs. Et ça veut dire aussi beaucoup de ce qu'on peut avancer sur les bibliothèques, sur leur esprit. Et donc la particularité de la bibliothèque de Pujol, où je travaille, c'est d'accueillir régulièrement des autrices, des auteurs, qui viennent parler, comme dans le book club, de leur travail, de leur œuvre. Et ces autrices, ces auteurs me parler, alors pas forcément devant le public, mais dans des moments qu'on pouvait avoir au restaurant, dans la voiture, de l'attachement qu'ils avaient pour ces lieux et à quel point ils avaient pu être décisifs, à quel point ils avaient pu jouer un rôle dans leur vie. Donc je sais pas si j'ai le temps de vous donner quelques exemples. Voilà, par exemple Yann Lespousse, lorsqu'il est venu à Pujol, me racontait que quand il était petit, il demandait à ses camarades d'emprunter des livres pour lui, pour qu'il puisse avant le collège lire tous les livres de la bibliothèque. Il avait cette obsession de ne pas quitter l'école sans avoir lu tous les livres. Le témoignage aussi de Karine Joachim, qui a écrit un très beau texte pour le recueil et qui a expliqué comment les bibliothèques avaient pu concilier, voire réconcilier ces deux identités avec ses origines portugaises et la langue française qui lui était enseignée à l'école. Et donc, en écoutant d'abord ces autrices, ces auteurs, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en leur demandant d'écrire, de mettre sur le papier ses ressentis. Et donc ça a démarré comme ça, il y a environ 2 ans, avec des demandes que j'ai pu adresser à ces personnes. Et une fois qu'une dizaine, une quinzaine ont dit oui, ont été d'accord pour écrire sur les bibliothèques, eh bien, il y a un éditeur, Pierre Fourniaud, dont le papa était bibliothécaire, qui dirige la manufacture de livres, qui a été d'accord pour publier ces textes. Les autrices, les auteurs avaient une grande liberté, que ce soit sur la forme, sur le fond, pour parler sur ce thème. Et au final, ça donne ce livre d'une bibliothèque à l'autre qui réunit 40 textes inédits.
Et sur la question du contexte, je disais à Joël Lemarec et à Agathe Béchelen qu'il me semblait que ces livres collectifs, et on va revenir sur ce mot collectif, paraissaient dans un contexte particulier. Est-ce que vous pensez, vous, Romain Boissier, que vous avez eu l'oreille sensible à ces témoignages d'autoristes contemporains sur la place de la bibliothèque dans leur parcours, parce que les lieux, les espaces ou les savoirs ou la vie contenue dans les bibliothèques vous semblaient peut-être pas assez regardés ou pas assez valorisés? Est-ce que ça a participé de votre envie de faire ce livre-là?
On est dans un contexte où les services publics sont menacés, sont remis en question. Et donc, forcément, ces lieux qui ont été importants dans les parcours des personnes qui appartiennent à ce collectif, on se dit que si on a envie qu'ils puissent continuer à exister, en évoluant, mais qu'ils puissent continuer à exister, eh bien, il faut faire une preuve, ou en tout cas apporter des arguments de leur légitimité, de leur utilité. Et il me semble que leur témoignage participe à cela et montre comment des bibliothécaires discrets, modestes, eh bien, ont pu jouer des rôles décisifs. Voilà, je pense à la bibliothécaire qui est dans le texte de Nicolas Mathieu. Eh bien, elle peut se dire que le travail qu'elle a fait, ça a donné envie à un jeune homme de lire, puis d'écrire, d'obtenir plus tard un prix Goncourt. Et ça, c'est, je pense, irremplaçable. Voilà des lieux qui sont incarnés par des personnes, un travail du quotidien.
Il y a deux choses qui m'intéressent dans les propos de Romain Boissier, peut-être auxquelles on peut réagir ici en plateau, Joël Lemarec. L'idée que produire des livres, donc produire aussi de la parole publique, de la parole partagée, ça viendrait comme en réponse avec la discrétion, le silence, peut-être les petits gestes, qui sont des choses qui reviennent beaucoup dans l'abécédaire sensible. Est-ce qu'il est temps de dire un peu plus haut, un peu plus fort, le travail qui s'élabore chaque jour à petite mesure ?
Oui, oui, absolument. Donc, moi aussi, j'étais frappée, Agathe aussi, Muriel, par la conjonction de la parution de ces ouvrages qui font s'élever des voix discrètes, enfin, des voix qu'on n'entend pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un tout petit peu inquiétant d'être obligé, enfin, de faire ces livres, mais en même temps, c'est absolument nécessaire. On l'a ressenti comme nécessaire parce que la bibliothèque, elle vit de cette discrétion. C'est un monde justement où c'est vrai, enfin il y a un côté authentique au fait de ne pas se valoriser ou de ne pas chercher à s'approprier ce que fait autrui, mais de rendre possible quelque chose pour tout le monde. Voilà. Et c'est quand même incroyablement rare, enfin, que des milieux où on rend les choses possibles sans essayer d'en tirer un bénéfice pour soi-même, pour sa petite entreprise personnelle, enfin.
Je tiens vraiment à dire que ce mot de discrétion et de délicatesse dans l'abécédaire sensible, il n'est pas là, même si on y réfléchit en même temps, comme un stigmate. C'est-à-dire que c'est une discrétion active, c'est voilà. Une délicatesse active. Ce n'est pas, je mets plein de guillemets, la petite bibliothécaire non. Gentille et discrète qui rentre chez elle sans avoir fait de vagues. Non, ce sont des gestes savants.
C'est ça, c'est des gestes très savants. Oui.
Agathe Béchelen, peut-être réagir sur la dimension collective que soulignait Romain Boissier qui dit « Ah tiens, ça m'intéresse que ces livres soient des livres collectifs. » Pourquoi est-ce que c'est intéressant de souligner ça ?
Alors pour moi, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ces deux livres, la conjonction de ces deux livres, c'est que c'est un peu un bric-à-brac. Et je trouve que la bibliothèque, c'est souvent un bric-à-brac.
Au sens hétérogène, quoi. Il y a plusieurs textes, c'est ça, c'est plusieurs choses, de plusieurs manières.
Exactement. C'est aussi, pour moi, c'est ça l'institution bibliothèque. C'est faire tenir ensemble de l'hétérogène. Donc là, on rejoint Foucault, mais faire tenir ensemble des choses qui s'excluraient de façon un petit peu naturelle, mais qui finalement tiennent ensemble. Et en fait, le bibliothécaire, il est un petit peu comme le fil, quoi, qui fait tenir ensemble ce patchwork à la fois d'usage... D'usager et d'usage et de documents, quoi, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et donc, et toute la... C'est comme comme, je sais pas, le vêtement que vous portez, on voit pas le fil.
Et pourtant,
voilà,
il brille,
mais parce qu'on veut bien le faire briller. Mais si pour le faire tenir ensemble, toutes les pièces, on doit pas voir le fil. Et le bibliothécaire, il est comme le fil. Il faut qu'il fasse tenir le vêtement, mais on doit pas le voir. Mais il faut qu'il soit solide quand même.
Vous citez Michel Foucault, c'est aussi une référence qui revient beaucoup, plus ou moins discrètement. D'ailleurs, je reprends ce mot-là dans les pages de l'abécédaire sensible, avec la notion d'hétérotopie, un lieu qui rassemble en effet des espaces et des temps hétérogènes. Pourquoi est-ce que c'est pertinent la définition d'hétérotopie de Michel Foucault pour parler des bibliothèques ?
Alors moi, je ne vais pas vous répondre sur Foucault, je vais vous répondre Deleuze.
Allez.
Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est le centenaire de Deleuze et moi, je m'occupe de la philosophie. Et donc, je dois travailler en ce moment, je travaille pour la rentrée à Lumière, parce que c'est le nouveau bâtiment de la BPI, c'est à Lumière, sur une, ce qu'on appelle en langage bibliothèque une valorisation. Voilà, ça s'appelle, là, c'est vraiment du langage technique. On va valoriser soit des thèmes, hein, soit des auteurs. Et moi, je veux faire quelque chose sur Deleuze, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur Deleuze. Et plutôt que de répondre par rapport à Foucault, pourquoi je vais vous répondre par Deleuze ? Parce que bon, en travaillant sur lui pour la valorisation de la rentrée, j'ai relu un texte de critique et clinique qui s'appelle « Bégaya-t-il ?». Et donc ça m'a aidé pour comprendre mon travail de bibliothécaire, pour décrire un petit peu le mouvement de ce que fait l'institution à la société, l'institution bibliothèque, et ce qu'elle fait aussi aux bibliothécaires, c'est le bégaiement. Et en fait, j'ai l'impression, moi, de bégayer, mais de bégayer...
Moi aussi, très souvent. C'est vrai, en plus.
Mais de bégayer d'une façon qui soit créatrice. C'est-à-dire que c'est ce que décrit Deleuze, puisque, en fait, il décrit le travail des auteurs, des grands écrivains, qui font bégayer la langue. Et la langue, c'est une institution. Et la bibliothèque, c'est une institution aussi. Mais... la bibliothèque, pour moi, elle fait bégayer les institutions.
Oui, j'ai beaucoup pensé à cette notion d'institution, notamment en pensant à un autre, mais c'est pas très très loin de Deleuze ni de Guattari, à la question de la psychothérapie institutionnelle et les petits gestes et la manière que, voilà, qu'on peut d'avoir, de faire travailler l'institution au sens vraiment du corps de l'institution. Et puis par ailleurs, on peut aussi attraper Deleuze pour parler de toute la question du rhizome et du réseau des bibliothèques qui est si important dans l'abécédaire sensible. Laissons Foucault, Deleuze et compagnie ici, on va continuer à parler des bibliothèques. Bibliothèque et des bibliothécaires, juste après cette chanson d'un groupe qui s'appelle Salut c'est cool. La chanson est sortie en 2015 sur leur disque sur le thème des grandes découvertes. Et dans cette chanson, le narrateur-chanteur croit se rendre à la bibliothèque municipale et il n'est pas impossible qu'il soit plutôt à la piscine.
Je vais à la bibliothèque municipale et je suis surpris d'apprendre que l'entrée est payante. Je me dis ensuite que cette bibliothèque doit posséder dans sa collection de très vieux livres extrêmement fragiles, car on m'indique qu'il faut enlever ses vêtements et mettre un maillot et un bonnet en latex pour accéder à la salle principale. Quand il faut ensuite passer une douche et un pédiluve, je me dis que la mairie fait peut-être un excès de zèle concernant la poussière. Mais je me plie aux règles. Je ne suis pas du genre à faire le malin. En suivant le couloir qui mène à la salle principale, je sens le courroux monter en moi. Alors que des bruits, d'éclats de rire et de cris arrivent à mes oreilles. Qui fait donc régner la loi du silence dans cette bibliothèque ? Comment pourrais-je lire en toute tranquillité ? Je continue, bon an mal an, mon chemin vers les allées. Stupeur. La disposition des livres telle que je la connaissais est toute chamboulée. Les allées sont vides et remplies d'eau. Les usagers les parcourent en nageant à la recherche de livres qu'ils ne trouvent pas. J'accuse alors le coup de ma longue absence des bibliothèques et de ma mauvaise connaissance des nouvelles méthodes de classification. Et je rentre chez moi sans demander mon reste.
France Culture, le Book Club. Marie Richaud.
Même personnel, la bibliothèque a pour vocation de se constituer en lieu public. Le murmure des livres est toujours fait pour parvenir au plus grand nombre. On pourrait dire aussi que chaque livre est un tourbillon dans le fleuve de notre histoire, une origine qui va s'élargissant, se diffusant vers autrui. Dans une bibliothèque, on échange, on fait circuler, on évoque, on raconte, on propage sa passion littéraire comme un véritable gai savoir. Des mots de Georges Didier Huberman en préface de l'abécédaire sensible des bibliothèques, mots d'ordre et de désordre parus aux éditions éditions Hétérotopia. C'est l'un des deux livres qui nous a donné envie de parler de ces lieux publics. Le deuxième étant un recueil de témoignages d'auteurs contemporains parlant de leurs souvenirs de bibliothèque. Ces lieux à la simplicité apparente qui résident, je cite l'introduction collective de l'abécédaire, qui résistent à la fabrique volontaire de l'ignorance, qui structure presque naturellement beaucoup de discours politiques, médiatiques et d'expertise sur les publics, les fonctionnements sociaux et les apparences d'esprit critique. L'abécédaire qui fonctionne comme un abécédaire avec des entrées et des mots, avec E comme étonnement.
L'étonnement devant chaque personne qui arrache à l'espace à partager de la bibliothèque un petit bout pour elle. L'étonnement devant l'infinité des postures possibles dans ce lieu public, la tête enfouie dans son bras sur la table, un corps endormi derrière les rayonnages, un autre qui a déplacé une chaise près d'un mur à l'écart, d'autres qui parcourent la bibliothèque en tous sens pour trouver à qui parler quand la bibliothécaire est déjà occupée, un autre accroupi près d'une table pour échanger avec ses voisins sans déranger les autres. Quelques-uns qui viennent seulement dire bonjour et vérifier que la bibliothèque existe toujours. L'étonnement devant le courage de celui qui ose poser sa question. L'étonnement face à l'obstination de chacun pour enfin entrer dans la bibliothèque et en sortir le plus tard possible. L'étonnement devant l'étonnement du lecteur quand la bibliothécaire lui répond gentiment et longuement. L'étonnement en trouvant des livres rangés le dos à l'envers, dans les rayonnages, par les lecteurs qui cherchent à les camoufler pour se les approprier. L'étonnement en tombant sur des bouts de papier griffonnés de messages mystérieux cachés dans les rayonnages. L'étonnement de découvrir les livres annotés avec des commentaires d'inconnus qui se répondent au fil des années sans le vouloir. L'étonnement de constater chaque jour un miracle dans la bibliothèque. Cette facilité de la multitude à construire, sans se connaître, une qualité de silence suffisante pour se reposer, réfléchir, reprendre son souffle. L'étonnement devant la confiance persistante des usagers envers la bibliothèque comme institution. L'étonnement en remarquant des livres ajoutés clandestinement et judicieusement par des lecteurs sur des tables thématiques conçues par les bibliothécaires. L'étonnement devant cet homme ivre, mais qui essaie de le cacher, et qui vient demander au bibliothécaire des documents sur les centaures. L'étonnement d'être encore là, de persévérer à tisser des chemins invisibles et fragiles entre les documents et nous.
Alors, il y a A comme abécédaire, A comme ambiance, C comme cohabiter, D comme discrétion, D comme disparition, D comme dispute, E comme éthique, H comme hospitalité, M comme modestie, N comme numérique, P comme priorité, S comme scrupule, T comme tact, ou V comme valeur. Et j'en saute évidemment dans cet abécédaire. On vient d'entendre dans la voix de Cyril Marchand votre texte sur l'étonnement. Agathe Béchelen, peut-être c'est le moment de discuter ensemble de ces qualités, pas au sens que positif, mais au sens de la description du métier qui ressortent quand on parle du métier de bibliothécaire. Donc l'étonnement comme une pratique presque quotidienne. Et quoi d'autre, Agathe Béchelen?
Alors l'étonnement, effectivement, moi depuis le temps que je suis bibliothécaire, je n'en finis pas de m'étonner. Je ne suis jamais blasée, pourtant c'est pas tant d'avoir vécu plusieurs phases de l'institution qui m'ont parfois un peu découragée, mais lorsque je vais en service public, nous on dit SP.
Ça veut dire au contact des usagers.
Exactement. Nous, on appelle ça service public.
Ouais,
on
va en même temps.
En service public. En fait, j'ai toujours de la joie à y aller parce que je sais que je vais être étonnée. Et à chaque fois, je suis étonnée. C'est-à-dire que je dois improviser, en fait. Donc là, par exemple, le bibliothécaire, c'est un as de l'improvisation. C'est-à-dire que ce que je dis aussi dans un autre texte, dans la question, par exemple, on doit tout le temps s'attendre à ne pas savoir répondre. Parce qu'on a toutes sortes de questions et puis on ne peut pas connaître tout. Donc on a des outils. Mais il faut accepter de ne pas savoir.
Et donc la joie de chercher, chercher avec, co-construire des savoirs, évidemment dans ces pages-là de l'abécédaire sensible, la question de construire des communs, que ce soit des communs en termes de savoir ou des communs en termes d'espace, et puis peut-être encore plus en termes de lien social, c'est évidemment extrêmement important dans les textes qui sont signés. Néanmoins, peut-être pour mettre un petit bémol, Joël Lemarec, cette question d'étonnement va pas très loin dans le chapitre E avec l'émerveillement, et dont on entend que parfois cet émerveillement-là quotidien, il peut être pris comme argument pour contrebalancer ce que vous évoquiez à mi-mot, à Agathe Bechelen, c'est-à-dire parfois la difficulté, la pressurisation de cette institution, des modifications dans les rythmes de travail. C'est un émerveillement où on pourrait dire « oui, mais c'est un peu dur, mais tu sais, tu fais un beau boulot, c'est magnifique, quoi ».
Oui, d'ailleurs, ce sont des collègues voilà, qui ont montré aussi, qui ont voulu parler de cette ambivalence aussi. Ça renvoie au fait que c'est tellement beau ce que vous faites. Enfin, vous avez qu'à le faire par passion. Enfin, cette idée aussi des vocations et qu'on colle un peu toujours aux professionnels du soin en disant c'est déjà bien suffisant, tu es si utile, c'est merveilleux.
Du soin et du sens, d'une certaine manière.
Voilà,
ouais.
Voilà, du soin et du sens. Et au fond, la gratification, elle viendrait du fait que, comme il y a des résultats du côté des usagers, des lecteurs, des personnes, etc., etc., c'est bien suffisant. Pourquoi on va réclamer de la reconnaissance ou pourquoi on va... Et en plus, dans un contexte où la bibliothèque, elle est amenée à jouer un rôle très important, enfin parce que les services publics sont en stress et donc il y a des bibliothèques qui sont des lieux, des refuges pour toutes sortes de personnes aussi vulnérables, enfin qu'ont des difficultés, enfin et c'est un des lieux qui est le plus hospitalier, qui est un lieu refuge mais derrière les bibliothécaires, enfin c'est eux qui assume tout ça. Donc,
avec des questions aussi... très concrètes. C'est-à-dire que ces textes-là montrent aussi une vie quotidienne dans le bâtiment bibliothèque. Et quand par exemple, on s'attache, on va y venir notamment avec le texte de Brigitte Giraud dans un instant, mais quand on s'attache à la question de l'hospitalité, et notamment de l'hospitalité inconditionnelle, d'accueillir les lectrices et les lecteurs, quels qu'ils soient. Bon. Mais ça pose des questions concrètes quand on dit ça. Alors évidemment, elles sont comme un peu manifestes à la BPI, qui est un lieu un peu particulier au cœur de Paris, mais dans toutes les bibliothèques, que faire? Là, on l'entendait de cet homme ivre qui le cache, et qui essaie de le cacher, mais qui est là. Que faire des mineurs en migration ou de passage, en difficulté administrative? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Tout ça, c'est des questions très politiques et très pratico-pratiques, Joël Lemarec. Oui.
Et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a aussi parfois une colère ou un désarroi assumé, pas comme étant des faiblesses ou des sorties de route de la part de professionnels sortiraient un peu de la rationalité mais qui sont politiques. Et de ce point de vue-là, je retrouve aussi des situations qu'on peut avoir dans l'enseignement et la recherche où on cache souvent des situations de colère, d'inquiétude parce que il faut sauver la face, s'occuper
et tenir la baraque.
Voilà. Et alors que en fait, on a une autorisation par, des courants scientifiques aussi, qui politisent ces états-là de colère, d'inquiétude, etc. En disant non, mais en fait, c'est pas seulement des états individuels, la psychologie des gens qui font que ils vont mal à un moment donné, mais ils vont se reprendre. C'est des états politiques sérieux. Au même titre que, par exemple, la joie ou la confiance. Voilà. S'il y a de la joie et de la confiance, alors il y a une aptitude à ressentir collectivement des colères et des préoccupations.
D'où le D comme dispute ou le D comme désordre qui intervient dès la couverture de cet abécédaire sensible et qui dit aussi que réfléchir à son métier, ouvrir des espaces de parole pour réfléchir à son métier, c'est être en mesure de dire là ça va pas, là ça tire trop fort, là on peut inventer, tiens là on a un problème, discutons-en collectivement, mais du coup, ayons l'espace pour le faire dans des quotidiens de travail qui sont resserrés. Tout ça apparaît aussi comme des choses pratico-pratiques et légitimes et avec des conséquences politiques dans cet abécédaire sensible. Alors, on va sauter à l'autre livre, d'une bibliothèque à l'autre. Donc, tous ces auteurs et autrices contemporains qui ont, l'invitation de Romain Boissier, parlé de la place de la bibliothèque dans leur parcours, dont Brigitte Giraud, qui signe un texte qui s'appelle « Seul ensemble ».
Qui fréquente la bibliothèque sauve les apparences, vis-à-vis de lui-même en premier lieu. Il oublie qu'il est perdu, qu'il navigue à vue dans un univers indéchiffrable. Il devient respectable parce qu'il fréquente le savoir et son organisation. Cela œuvre par capillarité, en une suite de petits mensonges que nul ne peut percer à jour. Je voyais à la bibliothèque des gens qui, comme moi, fuyaient, se trouvaient une raison d'être là parce que c'était moins pire qu'être ailleurs. Là, on nous fichait la paix, on pouvait se reposer, fermer les yeux dans un fauteuil, pourvu qu'on tienne un livre, un journal, de temps à autre, dans ses mains. Cette stratégie m'avait déjà sauvé quand, à peine sorti de la fac, momentanément sans travail, incapable de payer le chauffage de mon studio mal isolé, j'allais m'installer à la bibliothèque de mon quartier, au cœur de Lyon. J'y lisais la presse parmi des gens dont j'ignore s'ils étaient là comme moi, pour passer le temps, ou s'ils avaient une raison plus noble d'occuper les lieux. Noble, ce mot plein de pièges, qui est un peu le double de sérieux et besogneux, noble, qui n'est pas réservé aux traînes savates et autres paumés qui squattent les trottoirs des villes. Et pourtant, en prenant place dans un coin de la bibliothèque, c'est un peu de la noblesse du lieu qui vient se déposer sur les épaules. Les pauvres sont moins pauvres, les paumés moins paumés, les ignorants moins ignorants, les esseulés moins seuls, les procrastinateurs moins impuissants. Tout le monde se tient dans un silence qui ne pèse pas, chacun relié à l'autre par la présence des volumes, sur les rayonnages, par le fil de la littérature, de la science, de l'histoire, de l'art ou du droit. Chacun seul, mais seul ensemble.
Romain Boissier, un extrait du texte de Brigitte Giraud, Seul ensemble, à l'intérieur de votre livre, enfin du livre collectif, pardon, D'une bibliothèque à l'autre, paru aux éditions La Manufacture de Livres. Cette idée d'un lieu et d'une présence magnétique des livres qui donne noblesse à qui s'y trouve, qui donne place possible à qui s'y trouve, est quelque chose qui revient dans les différents témoignages que vous avez rassemblés. De quelle manière ou avec quelle facette on pourrait dire ?
Eh bien, il y a d'ailleurs cette expression qui donne son titre au texte de Brigitte Giraud, « Seul ensemble », elle se trouve aussi à deux reprises dans l'abécédaire. Et l'idée que c'est un lieu où on va trouver une bulle, une parenthèse dans notre monde qui peut être pour certains violent, un lieu où on a un rapport aussi non marchand. Et cette idée qui revient dans plusieurs textes que pour beaucoup de personnes, la bibliothèque peut être non seulement un lieu d'accueil et de partage, mais dans certaines situations plus extrêmes, un lieu d'asile, un refuge. Et ça devient relativement rare dans l'espace collectif, dans la cité, aujourd'hui. Donc voilà, cette idée de place, une bibliothèque, elle doit bien sûr faire sa place à des documents, à des livres, à des savoirs, essayer de les ranger, de les classer, mais elle trouve son sens que si elle accueille du public. Il y a quelque chose qui est évoqué dans l'abécédaire, c'est la période du Covid, où on ne pouvait plus accueillir de public. Moi, tous les jours, j'allais quand même travailler à la bibliothèque de Pujol. Je préparais les documents, je faisais des commandes, j'essayais d'anticiper. Mais on n'avait plus ce lien avec la population, avec les gens. Et ensuite, il y a eu la période difficile aussi du pass sanitaire où ça allait à l'encontre de nos principes d'accueillir sans discrimination. Donc voilà, la bibliothèque c'est un lieu particulier. Et voilà, Brigitte Giraud, dans son texte, dit « emprunter est un verbe presque désuet, le contraire de posséder, le symbole même du développement durable ». Voilà, le développement durable, c'est quelque chose qui est mis beaucoup en avant par les responsables, par les élus, et peut-être que…
Et c'est mis en acte par les bibliothèques.
Voilà, mis en acte, d'où l'intérêt de les protéger et de les préserver. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se fermer à l'innovation, à l'évolution de la société, des pratiques, mais protéger ce qui a été créé dans ces lieux, avec une grande diversité, parce que bien sûr, le travail que fait Agathe à la BPI, où il y a 230 agents, il est très différent de celui que je peux faire à Pujol, un petit village, et le rapport avec le public, les usagers, est très différent. Mais il y a malgré tout, voilà, ce lien entre les lieux que sont les bibliothèques et avec le même idéal, j'ai envie de dire presque la même utopie de cet accueil.
Oui, et puis il y a aussi l'idée de regarder, d'écrire, protéger ce qui marche. Ça, c'est aussi très intéressant dans ces deux livres-là, c'est de dire il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ont des effets, il y a des choses où les politiques publiques achoppent, ratent, galèrent, et là, ça fonctionne. Pas dire que ce sont des lieux merveilleux, dire que ce sont ces petits gestes mis bout à bout qui fait que ça marche. Alors regardons-les, protégeons-les, ces gestes-là, et n'en faisons pas des petites choses fragiles, au contraire, des choses agissantes. J'entendais aussi dans le texte de Brigitte Giraud l'idée d'une ambiance, d'un espace. Ça, c'est quelque chose qui revient dans l'abécédaire sensible des bibliothèques, c'est-à-dire comment décrire ce qui fait un lieu, Agathe Béchinel. C'est pas facile de savoir pourquoi est-ce que quand on entre dans une bibliothèque, on se sent en effet, ben là, on entendait Brigitte Giraud, autorisée, presque anoblie par la présence des volumes. À quoi ça tient ?
En fait, j'ai aussi beaucoup apprécié le texte d'Estelle Flory, aussi dans le livre de...
Qui s'appelle Asile, d'ailleurs.
Ouais, Asile, voilà, tout à fait. Donc, j'ai retenu un peu les mots refuge, asile, tremplin, et puis le radeau de Philippe Artière, que je trouve magnifique aussi.
Qui est en prélude de l'abécédaire.
Ouais. Voilà, que je trouve magnifique aussi. C'était quoi la question ?
La question, c'était qu'en fait, souvent, il est question...
Ah oui, l'ambiance.
Oui, cette ambiance. L'ambiance. Quoi. Comment ça se crée ?
Alors, l'ambiance, en fait, c'est très difficile à...
À attraper par le langage.
À attraper, parce que c'est... Et surtout l'ambiance d'une institution. Comment construire une ambiance institutionnelle qui ne doit pas faire sentir l'institution tout en la faisant sentir. Et en fait, j'avais dans mes voyages professionnels, j'avais visité c'était il y a 10 ans, un projet à Lille, ce qui s'appelait l'Iliade, hein, qui était la nouvelle bibliothèque universitaire à l'époque de Lille. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'ils avaient fait une présentation d'une architecture où ils avaient enlevé tous les livres pour les mettre dans le sous-sol. Et donc c'était les learning center. Ils avaient fait un learning center. Alors moi, j'étais curieuse de voir ça. Et en fait, paraît-il que les 3/4 des étudiants avaient demandé de faire remonter les livres.
Qu'on les voit, s'il vous plaît.
Oui, ça rejoint ce que disait Romain, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ils avaient besoin de la présence des livres. Donc, comme moi, à la BPI, et c'est là où je suis un peu en traumatisme en ce moment, comme moi, à la BPI, j'ai besoin d'avoir la présence des œuvres du musée. C'est-à-dire que de travailler dans un lieu où il n'y a pas les œuvres d'art, ça me... Voilà, je suis dans un état de vulnérabilité énorme en ce moment, comme les étudiants qui ont besoin de la présence des livres. Et donc, ils avaient remis des livres. Donc.
On va écouter la voix de Julie. Elle pose une question justement sur... vous parlez des étudiants, on a parlé des usagers, peut-être on a parlé aussi des services publics. Comment les appeler et quelles place laissée à leurs paroles.
Bonjour le Book Club. J'ai lu l'abécédaire sensible des bibliothèques et j'ai vraiment aimé le côté recueil du livre. Je trouve que la forme, elle est parfaite pour montrer la multitude des visages des bibliothèques et de leur personnel. L'intro et la préface sont particulièrement touchantes parce qu'elles racontent très très bien le lien que le lecteur a avec sa bibliothèque. Certains textes relèvent vraiment de la poésie pure et dure, comme le E d'émerveillement. Certains sont assez drôles, comme le C de contrebande clandestinité, qui raconte le côté un peu pirate des bibliothécaires, hein, très éloigné de l'image de Cerbère qui fait chute tout le temps. Et j'ai une petite question pour Joël Lemarec. Est-il envisagé un autre volume qui serait la réponse de celui-ci, avec des textes d'usagers des bibliothèques ?
Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup Julie pour cette lecture d'une part et pour cette question, Joël Lemarec.
Merci. Oui, alors oui, ça serait tout à fait. Enfin, les voix peuvent remonter de partout, je pense, maintenant qu'on ouvre. Mais cet abécédaire, il vient aussi de très nombreuses enquêtes, en fait, auprès des publics et des lecteurs. Donc, moi, j'avais fait un essai sur la bibliothèque qui était un peu une synthèse parce que j'étais très touchée par ce que disaient les lecteurs et j'avais envie de partager ça. Enfin, donc vous avez bien raison et j'ai envie d'ailleurs de partager comme les bibliothécaires, je pense, enfin l'expérience de ces rencontres aussi, de toutes ces démarches. Et de ce point de vue-là, je suis sensible à cette expression, la seule ensemble, c'est-à-dire au-delà même, c'est faire société. c'est vraiment laisser remonter le maximum de voix dans des environnements où il y a un consensus sur le fait que ça va bien se passer, où on ne va pas être violent. Et donc, dans ces conditions-là, plus il y a de voix qui remontent, et je dirais plus c'est riche aussi, et plus on peut être dans ces conditions où on fait un peu reculer ce gouffre d'ignorance qui est mis à la place ou par-dessus le fonctionnement des institutions ou de services publics.
À tout point de vue, d'ailleurs, la question de lutter contre l'ignorance avec un grand I ou contre les ignorances, peut-être aussi la manière de s'ignorer les uns les autres, faire place à l'autre avec un petit A, avec un grand A. Agathe Béchinel, on n'a pas eu l'occasion de parler des ateliers numériques que vous avez proposés à ces jeunes personnes migrantes, mais c'est aussi comment est-ce que cet espace-là qui répond au consensus de « ça va bien se passer » est une proposition politique en soi. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et il continue avec vous, Nicole Vulser. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
Vous éclairez pour nous chaque semaine un aspect économique du monde des livres. Et aujourd'hui, on est pourtant très loin de la rentrée littéraire de fin août, début septembre. Et ça aurait quand même un peu commencé.
C'est quelque chose d'assez méconnu, mais la rentrée littéraire de septembre se prépare chez les éditeurs bien en amont et chaque année de plus en plus tôt. Parfois dès avril et là en juin, tous ont déjà largement mobilisé leurs équipes de vente, mais aussi de plus en plus les auteurs. J'étais mardi dernier à la Maison de la Poésie à Paris, où étaient rassemblés plus de 140 libraires pour la grand-messe de présentation de la rentrée de Calman Lévy, filiale du groupe Hachette détenue par Vincent Bolloré. Le patron de la maison d'édition, Philippe Robinet, a prévenu d'entrée de jeu. Il préfère choisir, ne présenter que 5 livres, dont un premier roman et un roman traduit à chaque rentrée, pour mieux les accompagner. Sur l'estrade ont donc défilé au cours de la matinée 4 romanciers ou romancières de la maison, Robin Vatine, Cécile Clilly, Emmanuel Flech, Fabrice Imbert et le traducteur Dinis Gallos, venu parler du compromis de Long Island de l'américaine Taffy Broadster-Hackner. Pour l'éditeur, il s'agit sans surprise de convaincre tous les libraires que ces livres sont forcément les meilleurs. Et les auteurs sont souvent les avocats les plus doués pour les convaincre. À la fin de la matinée, tous les libraires sont repartis avec un petit sac contenant les 5 ouvrages et l'éditeur rêve que tous fassent partie de leur fameux coup de cœur.
Et là, c'est qu'une seule petite partie de cette grande campagne de commercialisation. Nicole.
Oui Marie, dès le lendemain, Virginie Eba, la directrice commerciale de Calman Lévy, a présenté ces mêmes 5 titres aux 160 libraires des hypermarchés Leclerc, réunis à la Maison de l'Amérique latine, toujours à Paris. Mais là, c'est différent. Ce sont les éditeurs qui sont conviés par la direction de l'hypermarché et non l'inverse. Top chrono, Virginie Eba n'a disposé que de 20 minutes pour les convaincre du bien fondé de ces 5 choix. La veille, la séance durait quand même près de 2 heures. Donc là, il faut être précis, concis, pitché avec talent. Chez Cultura, c'est la même chose. Ce sont les libraires du groupe qui convoquent les éditeurs. Et le grand tour n'est pas fini. D'ici à la fin juin, l'équipe commerciale de Calman Lévy va sillonner la France en ayant choisi cette année 7 étapes à Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Strasbourg, Marseille et Nantes. L'éditeur convie à déjeuner les libraires de ces villes et emporte dans ses bagages au moins 2 auteurs qui viennent défendre leurs couleurs. Pour ne rien laisser au hasard, les représentants de commerce du groupe Hachette arpentent également les routes de France pour aller visiter directement les libraires. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'importance des grands comptes, les clients clés des éditeurs comme les Fnac, Amazon ou Relais. Ils sont d'autant plus choyés qu'ils peuvent écouler des montagnes de livres.
Ça, c'est la stratégie utilisée par les grands groupes que vous avez cités, Nicole. Mais qu'est-ce qu'il en est des petits éditeurs indépendants ?
Alors j'ai demandé justement à 2 directrices déléguées de l'Iconoclaste, les sœurs Alba et Constance Beccaria. Elles ont leur propre réseau de représentants dont la tâche consiste à défendre uniquement les titres de l'Iconoclaste et des arènes. C'est un combat acharné pour avoir davantage de temps, le maître mot. Je les cite. « Nos représentants ont montre en main 1h30 pour expliquer 20 livres à un libraire, là où les autres représentants en conseillent 200. Quand je vous disais qu'il fallait savoir pitcher court, ce n'est pas une vue de l'esprit. » La maison d'édition se focalise à chaque rentrée uniquement sur 3 titres. Cette année, ils sont signés par Léonore de Recondo, Gaëlle Nohan et une primo-romancière, Mathilda Di Matteo. La campagne promotionnelle démarre dès mars et fin juin. Ces 3 autrices auront vu quelques 1100 libraires.
Et revenons à la question du temps qui paraît centrale. Un temps imparti pour vendre les livres, Nicole.
Alexandre Vicam, directeur éditorial de la non-fiction chez Albin Michel, m'expliquait récemment les choses très clairement. Pour parler d'un projet de livre à son patron, Gilles Aéry, il dispose en général d'un quart d'heure pour lui présenter avant d'avoir une réponse. Et quand l'ouvrage est annoncé pour une prochaine publication, la présentation au cadre de la maison dure 3 ou 4 minutes par livre. Ensuite, le représentant chez le libraire dispose, lui, de 30 secondes à 1 minute 30 dans le meilleur des cas, par ouvrage, pour simplifier, argumenter et convaincre. Selon Alexandre Vicam, c'est un exercice intellectuel exigeant, le ciment même de la chaîne du livre. Et il reste d'ailleurs persuadé que parler longtemps ne rend pas pour autant plus brillant.
On va continuer de faire une heure l'année prochaine quand même au Book Club. Dernière chose, dites-moi si je me trompe, mais les auteurs et autrices ne sont pas tout à fait payés pour ces efforts.
Merci Marie, vous touchez un point essentiel de ces grandes campagnes de promotion. Les auteurs sont de plus en plus impliqués dans ces présentations aux libraires, toujours plus chronophages, mais ils ne touchent toujours pas un seul centime pour leurs prestations. Un problème majeur que les éditeurs refusent de voir.
On peut vous réécouter Économie du livre sur franceculture.fr. Et on continue dans le Book Club, et ici tout se termine toujours en musique, on cherche de la musique dans les textes et on en a trouvé. Dans le livre D'une bibliothèque à l'autre, donc sous votre direction, Romain Boissier, c'est le texte dont vous parliez justement, Agathe Béchelen. Il s'agit de Asile d'Estelle Fleury, on se quitte avec ça. Pendant les 2 ans qu'a duré ma maîtrise, hormis les week-ends, j'ai vécu essentiellement dans ma tête. Du lundi au vendredi, j'existais dans l'espace clos et illimité de mon crâne, où les personnages des romans étaient mes compagnons et mes seuls interlocuteurs. J'avais de longs dialogues avec eux et je parlais toute seule, en marchant dans Paris ou quand je marmonnais dans mes rêves à la bibliothèque. Parfois, je ne prononçais mes premières paroles à voix haute que le vendredi soir, en rentrant à Fontainebleau. Avant d'aller retrouver au pub les potes de Grimpe et les potes de bar, je testais ma voix rouillée, comme avant de répondre à un coup de téléphone qui vous surprend au lit à une heure décadente. Je sentais bien que ce n'était pas tout à fait normal, ce mutisme et cette solitude choisie. Que ce qui était acceptable et accepté dans le monde de la bibliothèque ne l'était pas dans celui de l'extérieur. Je ne parlais pas de mes semaines aux potes du week-end, et s'ils avaient pu me voir à la bibliothèque avec mon écharpe autour de la taille et mes marmonnements, avec mes feuilles étalées partout et mon casque sur les oreilles, à me balancer au rythme d'Asian Dub Foundation pendant 10 heures d'affilée, ils m'auraient sans doute classé dans les bizarres, au même titre que l'homme au sac plastique et celui aux bandelettes. On a parlé des bibliothèques et des bibliothécaires aujourd'hui, notamment avec vous, Romain Boissier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le livre collectif que vous avez coordonné s'appelle « D'une bibliothèque à l'autre » et ça rassemble 40 textes d'autoristes contemporains sur la place occupée par la bibliothèque dans leur parcours. Est-ce qu'il y a un programme, quelque chose de prévu à la bibliothèque de Pujol que vous voudriez annoncer ?
Alors, il y aura juste à côté de Pujol, à Villeneuve-sur-Lot, fin du mois de septembre, le dernier week-end de septembre, un salon du livre où les lectrices, les lecteurs pourront retrouver une quinzaine d'autrices et d'auteurs du recueil.
Merci beaucoup et puis plein de bonnes choses à la bibliothèque de Pujol et à ses équipes.
Merci
beaucoup Joël Lemarec et Agathe Béchenel d'avoir été avec nous pour parler de cet abécédaire sensible des bibliothèques, mots d'ordre et de désordre, paru aux éditions Hétérotopia. C'est vraiment un livre passionnant. Au son aujourd'hui, c'était Clara Galivet à la réalisation, Vivien Demeyer. Vous avez vu que je bégaye, Agathe. Il y a des moments comme ça, je sais pas, j'ai pas d'explication, mais je bégaye un peu plus que d'habitude. Et merci à toute l'équipe du Book Club, évidemment, c'est le jour ou jamais pour vous proposer de réécouter tous nos portraits de bibliothèque.